Voix Nues. Toute cette semaine, Raphaël Bourgois rencontre Patrick Bouchain. Ce soir, apprendre à ne pas enseigner.
Bonsoir Patrick Bouchain.
Bonsoir.
Merci de nous accueillir chez vous à Paris pour cette série d'entretiens au cours desquels nous reviendrons sur votre parcours d'architecte, sur vos collaborations nombreuses avec des artistes comme Daniel Buren ou Bartabas par exemple, sur votre vision politique et philosophique d'une architecture au service de l'intérêt général. Il est d'usage dans cette émission de procéder de façon chronologique, on va s'y efforcer, même si certains sujets demanderont nécessairement que nous procédions par aller et retour. J'aimerais en effet aborder quelques étapes importantes de votre parcours, la rénovation d'espaces industriels en lieux culturels, la défense de la pluridisciplinarité, l'invention d'une architecture foraine, le renouvellement de l'habitat et singulièrement de l'habitat social par ce que vous avez appelé l'autoconstruction. À chaque fois, les projets que vous avez menés nous aideront à mieux comprendre vos intentions. Mais il faut commencer par le commencement, si vous voulez bien, Patrick Bouchain. Vous êtes né à Paris en 1945, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc. Quelle enfance avez-vous eue ?
J'ai eu une enfance très heureuse, parce que j'ai eu un père qui a fait la guerre, et donc qui n'était pas le même donc avant et après. Et comme voilà, je suis né au moment, on pourrait dire, de la paix et de la victoire, donc je suis né à un moment très positif. C'est-à-dire que voilà, mes parents étaient soulagés. On n'avait, pour ainsi dire, perdu personne pendant la guerre. Et j'avais un père qui était donc décidé à former un enfant. C'était un peu comme si, par rapport à mes frères et sœurs, il avait mis un accent particulier sur moi, parce que je suis le petit dernier.
Vous êtes le cadet.
Voilà, et donc je peux dire que j'ai une enfance très heureuse.
Votre père est décorateur ?
Alors mon père était décorateur. Enfin, mon père était surtout un homme polyvalent, qui n'avait pas vraiment besoin de travailler, enfin qui vivait non pas de ses rentes, mais disons qui était dans un milieu qui lui permettait quand même de vivre avec peu de moyens, puisqu'on avait possédé des choses. Et donc, il ne travaillait que quand il en avait besoin, et il ne faisait que le métier voilà, qu'il avait choisi, pour lequel d'ailleurs il n'avait pas été formé, mais il s'était auto-désigné, on pourrait dire, comme décorateur. Et donc, j'ai appris mon métier, on pourrait dire, comme ça ne se fait plus, comme si j'étais dans un atelier, et c'est au contact de mon père donc que j'ai appris à dessiner, à construire et à réfléchir. Et comme c'était une époque où on manquait beaucoup de choses, c'était sortir de la guerre, il m'a appris à vivre de peu. C'est-à-dire que il avait changé, mais en même temps il avait perdu beaucoup de choses. Et donc c'est comme quelqu'un qui s'était libéré de tout ce qui était encombrant. Et j'ai donc eu une enfance pauvre, on pourrait dire, mais très heureuse, où on n'avait plus rien et il reconstruisait. Et donc on peut dire qu'il a été mon professeur.
Quel élève étiez-vous ? Je crois que vous avez été à l'école chez les Jésuites, à Paris toujours, voire à Neuilly peut-être.
Alors, c'était pas vraiment une école de Jésuites, mais il y avait des Jésuites qui dirigeaient cette école, dont le directeur de l'école. Et j'ai eu une enfance assez choyée, on pourrait dire, comme éducation, puisque mon frère, qui avait 10 ans de plus que moi, qui avait été un très bon élève... j'avais, on pourrait dire, le passage de mon frère qui m'ouvrait la voie. Mon père était donc assez méfiant sur l'enseignement religieux, et donc il avait mis des conditions pour que je ne sois pas, on pourrait dire, endoctriné, ou tout au moins emmené dans un mouvement. Il était contre tous les mouvements, je pense que c'est la guerre qui lui avait donné peut-être cette idée de ne pas suivre la troupe, comme on dit. Et donc... il avait plus ou moins posé des conditions, mais de manière très souple, comme quoi, on pourrait dire, mes résultats scolaires n'avaient pas d'importance. Voilà. Donc, ce qui comptait, c'était l'état dans lequel je me trouverais à l'école. Il pensait que je devais être socialisé, donc rencontrer d'autres enfants. Mais on pourrait dire que pour lui, il ne fallait absolument pas que je sois comparé aux autres. Et il m'avait donné d'ailleurs ce sentiment qu'on n'était pas comme les autres. Voilà. Et donc j'étais dans cette école, pas comme les autres. Et le directeur de l'école, donc, qui avait un certain intérêt pour moi, m'a un peu sorti du système scolaire. Donc on pourrait dire que j'ai l'impression de n'être jamais allé à l'école. Je n'étais pas dans le système de notation, pas dans le système des examens, car je n'ai passé aucun examen.
Et d'ailleurs, vous sortez assez tôt de l'école, puisque vous entrez aux Beaux-Arts très jeune.
Bah, je sors de l'école en fin de troisième, c'est-à-dire que je considère que je m'ennuie à l'école. Je cherche donc à faire autre chose, et donc je voulais être mécanicien, parce que voilà, mon père m'avait appris à faire énormément de choses en mécanique. Je voulais être agriculteur, enfin, ou tout au moins vivre à la campagne. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais je voulais être coiffeur. Et donc, mon père a considéré que c'était peut-être des métiers honorables, mais que ce n'est pas des métiers que l'on pouvait faire toute sa vie. Et qu'il fallait me sortir de là. Donc, je ne suis pas rentré aux Beaux-Arts, mais il a fait en sorte que j'ai comme une sorte de, disons, de travail préparatoire pour pouvoir rentrer aux Beaux-Arts en contactant donc des décorateurs avec lesquels ils travaillaient ou des architectes. J'ai fait des stages très jeunes chez eux. Je suis rentré dans une école qui était comme une école préparatoire, qui était l'école Camondo. Et là, j'ai rencontré, pareil, un directeur absolument exceptionnel, Henri Malvaux, qui a été un peu mon deuxième père et qui m'a préparé pour que je puisse rentrer aux Beaux-Arts. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que je suis rentré aux Beaux-Arts sans m'en rendre compte, de la même façon, et je les ai faits sans m'en rendre compte, puisque j'étais déjà très lié avec le monde des adultes. C'est-à-dire que je pense ne pas avoir eu d'adolescence. Voilà. C'est un peu plutôt ça, le manque qu'il y aurait dans ma vie.
Les Beaux-Arts, à cette époque-là, Patrick Bouchain, on est avant 1968, c'est une école très différente de celle qu'on connaît aujourd'hui, avec encore ce système d'atelier, bon, qui existe encore un peu, mais avec des maîtres. Comment vous l'avez vécu, vous qui venez de le raconter, être toujours un petit peu à la marge, faire les choses un peu comme si vous n'y étiez pas, vous aimez déplacer, plutôt que de répondre à la question, vous aimez déplacer la question.
Oui, ou la poser autrement. Pour moi, comme j'avais cette relation, on pourrait dire, avec des adultes, que ça a été mon directeur d'école primaire et secondaire, ce directeur de l'école Camondo, j'avais une relation donc avec des professionnels. Et donc, c'était en effet une formation complètement à l'ancienne. C'est-à-dire que je passais mon temps dans les agences, dans les lieux de travail ou de formation que mes professeurs avaient. J'ai été même quelquefois d'ailleurs chez des artisans ou dans des entreprises. Et donc, il y avait comme une école du dehors. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir vécu une école au sens institutionnel. Je ne me rappelle pas du tout avoir subi la contrainte d'une institution.
Quelle architecture vous apprenez à ce moment-là, Patrick Bouchain ?
Alors, j'ai eu une formation là aussi complètement en décalage, parce que j'ai rencontré donc un professeur d'histoire de l'art, très âgé, qui avait un très grand savoir et qui m'a fait visiter énormément de bâtiments historiques. Il était spécialiste du XVIIe siècle et grâce à lui, j'ai compris ce qu'était donc cette architecture qui a été un modèle assez important dans le monde. Enfin, c'est le moment où la France était rayonnante. J'ai appris avec lui à visiter un monument historique, au sens non pas d'une histoire sans vie, puisque ce professeur avait été l'enfant d'un conservateur. Et il avait habité donc le château de Versailles. Et donc, quand il faisait visiter le château de Versailles, il le faisait visiter comme la maison de son enfance, quoi. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai compris très tôt, disons, la pluridisciplinarité qui était nécessaire à la construction d'une architecture et surtout peut-être le caractère moins important de l'architecte, puisque si on prend Versailles, on dit toujours est-ce que c'est le jardin, enfin c'est l'emplacement du château, est-ce que c'est le château tel que il existait comme résidence de chasse donc pour Louis XIII, ou est-ce que c'est Louis XIV transformant donc ce château en lieu de pouvoir, et est-ce que c'est les décorateurs, les sculpteurs, les maçons et l'architecte. Et à l'époque, ce professeur m'a expliqué qui était Jules Ardoin Mansart, qui était donc un très jeune architecte, et dont on peut dire que Louis XIV s'en est servi pour faire une architecture représentant le pouvoir, ou tout au moins une architecture représentant presque même le gouvernement de la France, quoi, et représentant même la nation. Et à l'époque, j'ai vu un film donc qui s'appelle « La prise du pouvoir » par Louis XIV de Roberto Rossellini, où on voit cette explication. Et donc j'ai compris très tôt que l'architecture était liée à sa commande. Voilà, et qu'il ne pouvait pas y avoir d'architecture sans destinataire, et qu'il ne pouvait pas y avoir d'architecture sans un ensemble de métiers qui travaillent autour. Et donc, du coup, j'avais décidé de ne pas faire ce métier, et peut-être d'être un restaurateur ou un décorateur, mais de ne pas être un architecte. Et très tôt, comme j'avais besoin d'argent, j'ai travaillé dans des agences où il y a des petites tâches dans les agences. Il y en a deux. Il y en a une qui est ranger la documentation, parce que c'est très compliqué, ce qu'on appelle aujourd'hui la matériothèque. Donc j'étais très curieux de ce qui se faisait sur le marché, donc j'étais très souvent responsable de ça, classer les choses et les ranger. Et très souvent, il y a ce qu'on appelle de faire les relevés. C'est-à-dire, quand on travaille dans un bâtiment existant, c'est de faire le relevé du bâtiment. Et faire le relevé d'un bâtiment, c'est en même temps l'analyser et le transcrire à une échelle. Et donc j'étais devenu un spécialiste du relevé de bâtiment. C'est-à-dire que je pouvais presque faire un relevé avec très peu de cotes. Vous voyez, j'avais pas de mètre. Je prenais juste un étalon et je faisais un relevé à la main qui lève. Donc j'ai appris très tôt à très bien dessiner, à analyser des bâtiments existants et à comprendre l'histoire de l'architecture. J'étais complètement à contre-courant de ce qui se faisait dans les écoles.
Alors, il y a dans votre parcours, déjà, on l'entend, Patrick Bouchain, ce côté un peu libertaire, on y reviendra, vous n'aimez pas beaucoup les règles et les réglementations. Ça se développe à ce moment-là, et il y a aussi cette époque, hein, qui est celle dont on parle, la fin des années 60, évidemment, une époque très politique. Vous prenez votre carte au Parti communiste, vous n'y resterez pas longtemps.
Alors, pas à cette époque, parce que à l'époque, je ne voulais pas faire mon service militaire. C'était le début, donc, de pouvoir faire son service militaire au titre de la coopération. On n'avait pas besoin d'être objecteur de conscience. Alors que, voilà, avant moi, les jeunes qui voulaient pas faire leur service étaient objecteurs de conscience, ou c'était assez compliqué de se déclarer comme inapte à faire son service. Et donc, moi, je décide de faire mon service militaire au titre de la coopération. Et donc, c'était les premiers architectes qui partaient donc au titre de la coopération. Et je décide donc d'aller en Afrique. Et donc je pars dans un endroit hyper privilégié qui était donc réclamé par tous, qui est Abidjan. Et donc je pars à Abidjan et je pars pour diriger la cinémathèque du centre culturel d'Abidjan. Ce centre culturel était dirigé par un jésuite défroqué, et ce jésuite défroqué redevient un peu un troisième père, on pourrait dire, qui me raconte le monde, parce qu'il avait beaucoup été en Amérique du Sud, et là il était donc en Côte d'Ivoire, parce qu'il avait été un très grand résistant. Et donc comme la Côte d'Ivoire était la plaque tournante politique, il avait eu ce poste, qui était un poste de second plan, mais l'endroit là était un endroit de premier plan. Et donc il se prend d'amitié pour moi, et il me laisse assez libre donc de fonctionner dans ma cinémathèque, et ce qui fait que c'est un peu comme si j'avais une formation, une deuxième formation artistique, car j'étais allé très peu au cinéma, et du coup j'ai avec moi donc énormément de films, j'ai la possibilité de faire venir des films de France par la valise diplomatique, et je rencontre sur place énormément de jeunes intellectuels français, de grandes écoles, puisque c'était l'endroit le plus privilégié, on pourrait dire, à Abidjan. Il y avait Dakar et Abidjan. Et donc, du coup, j'organise des ciné-clubs. Et donc, je me forme un peu à cette relation, disons, publique, ouais, d'être un porte-parole. Et je rencontre des tas de gens, dont, on pourrait dire, des jeunes marxistes, voilà, en 67. Et c'est assez drôle. On fait donc 68 en Afrique. Quoi. On n'est pas à Paris. On suit
ça
les
ressemble
événements.
À quoi alors 68 en Afrique?
Voilà, on
Patrick
suit...
Bouchain.
Non, ben, c'est assez étonnant parce que même la presse était assez muselée. Donc en Côte d'Ivoire, on a des informations que par l'ambassade, puisque donc le centre culturel est rattaché à l'ambassade, et on a une sorte d'information partielle. On a des copains qui remontent à Paris et qui nous informent, mais on a l'impression d'être coupé. Et du coup, quand je rentre à Paris, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose et je décide de faire de la politique. Je pense que voilà, j'ai été trop vite et j'ai été coupé de cela. Et donc je décide de faire de la politique et donc en effet j'adhère au Parti communiste français.
Voilà. Et ça se passe comment alors, Patrick Bouchard ?
Alors ça se passe comment ? Voilà, je retrouve donc les Beaux-Arts puisque il y avait des militants aux Beaux-Arts, à la Maison des Sciences de l'Homme, à Sciences Po, à la Fac de médecine. Et c'est à ce moment-là que je comprends, que, disons, je pénètre un milieu pluridisciplinaire. C'est-à-dire que je m'aperçois que, en fin de compte, mon métier ne m'intéresse pas particulièrement. Ce qui m'intéresse, c'est de réunir les choses. Et ce qui m'intéresse, c'est éventuellement de construire quelque chose qui réunirait les gens, ou tout au moins de construire quelque chose dans l'intérêt général. Et donc, on me sollicite pour être en partie sur certaines zones l'architecte de la fête de l'humanité. Et c'est là que je découvre un peu l'architecture foraine, puisque il fallait donc...
Donc une architecture éphémère.
Éphémère, mais qui était à l'époque le plus grand rassemblement, puisqu'il y avait 300 000 personnes qui allaient à la fête de l'humanité, et que le parc de la Courneuve était comme une sorte de ville éphémère que l'on construisait chaque année. Et donc, au bout d'un certain temps, je m'en occupe. Et d'ailleurs, j'y habite, je campe à la Courneuve.
Déjà, vous avez cette habitude d'habiter les lieux que vous construisez.
Voilà, je m'aperçois que y habiter, c'est rencontrer les gens dans des moments autres que les moments fonctionnels. Et je rencontre justement des gens du monde entier, puisqu'il y avait une cité internationale. C'est l'époque quand même du Vietnam, après toutes les échecs ou les réussites de l'Amérique latine. Donc je rencontre quand même énormément de militants du monde entier, et donc de l'Amérique latine principalement, mais beaucoup du Vietnam. Bon, très vite, je m'aperçois que je ne suis pas fait pour être dans un mouvement, qu'on me laisse libre, parce que le 6e arrondissement n'est pas un territoire d'enjeu, si vous voulez, on me laisse assez libre. Et puis, je me fais exclure, mais pas de manière spectaculaire, si vous voulez. Je considère qu'à un moment donné, donc voilà, j'ai pas ma place et j'arrête. Mais c'est à ce moment-là, je pense que peut-être j'ai envie d'enseigner. C'est-à-dire que c'est comme si perdre ce territoire dans lequel je militais, qui était un lieu de formation ou de transformation, je m'aperçois que j'ai besoin de retrouver peut-être un cadre. Et c'est là où je décide d'enseigner.
D'enseigner après la fin de vos études. On a un moment particulier, on l'a dit, 68, mais 68 va transformer complètement les écoles d'architecture. Alors vous allez enseigner plutôt d'abord à Camando, je crois, qui est une école assez particulière, vous allez nous parler, mais juste sur ce contexte général, c'est le moment de la création des UP, hein, les unités pédagogiques, chacune a un peu leur spécificité, c'est des lieux aussi très politiques. Évidemment, on voit aussi l'arrivée de toute une nouvelle génération d'architectes assez intellectuels. Le moment où, enfin, un peu plus tard, Bernard Huet qui va reprendre la rédaction en chef de l'architecture d'aujourd'hui. Bref, on a un moment d'effervescence, on va dire. Comment réimaginer la façon d'enseigner, de penser l'architecture, Patrick Bouchard ?
Alors, en effet, je vais à Camondo parce que donc j'avais gardé une très bonne relation avec son directeur, Henri Malvaux, qui était en même temps directeur de l'école des Beaux-Arts de Bourges, qui est une école nationale, mais qui est une école des Beaux-Arts. Et après 1968, donc, il y avait eu plusieurs propositions de faire un enseignement qui était un enseignement plus global. Et donc, il y avait eu la création d'un institut, qui est l'Institut de l'Environnement, qui regroupait tout ce qui pouvait toucher au design d'environnement, au graphisme, et à cette vision globale qui m'intéressait. Donc, il y a une réforme des enseignements artistiques qui se met en place, qui est un peu dans le prolongement de l'Institut de l'Environnement qui avait été créé en 69. Et Henri Malvaux me dit que Bourges, qui est une école nationale, va être une école prototype qui va permettre de mettre en place un département environnement. Et je m'aperçois que tous les jeunes professeurs, enfin tous ceux qui voulaient enseigner, vont plutôt dans des écoles nouvelles, écoles d'architecture, ou dans des écoles de beaux-arts en province, puisque les écoles sont moins académiques, ou tout au moins moins structurées, ou plus capables de recevoir donc cette réforme. Et donc je décide d'aller plutôt dans une école d'art, à Bourges, et de mettre en place donc à côté d'un département art, un département donc environnement. Et je postule, je suis reçu, je passe un concours, je suis reçu assez facilement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas énormément de demandes, et j'arrive à Bourges assez librement, et donc un de mes amis en devient le directeur, puisque Henri Malvaux prend sa retraite. Et donc Joël Gauvin, qui en prend la direction, me délègue absolument presque la totalité de la pédagogie de cette école. Et donc pour moi c'est une période très importante de ma vie, puisque c'est là où je rencontre donc des artistes, c'est là d'ailleurs où je rencontre Claude Lévesque, mais je rencontre des artistes qui viennent enseigner donc à Bourges, et ce sont des artistes qui des fois viennent de la vidéo, de la photo, de la peinture, de la sculpture, voire du graphisme, et ainsi de suite. Et j'ai l'impression, donc là encore une fois, de refaire une formation. Vous voyez, à chaque fois, chaque étape de ma vie est comme si c'était, je refaisais un cycle dans lequel j'enseigne, mais au milieu duquel j'apprends plus peut-être que je ne transmets. Et je reste 5 ans dans cette école, et je m'aperçois que c'est quand même limité, que les moyens vont me manquer, et que Bourges est quand même une petite ville, voilà, et que je vais avoir un mal fou à même à recruter des étudiants. Bien que là, j'en garde un très bon souvenir, parce que c'est une école qui recrutait réellement dans les milieux très populaires, et principalement le milieu rural. Donc c'était une population que je ne connaissais pas, et j'étais en même temps inquiet de quitter Bourges. Mais je propose à l'inspecteur délégué à l'enseignement artistique de réfléchir sur ce que pourrait être réellement un enseignement de l'environnement, ou un enseignement plus adapté à ce que je pensais. Je me mets en disponibilité pendant 1 an et je fais une étude sur toutes les écoles européennes, enfin principalement italiennes, anglaises et allemandes, et quelques écoles américaines, et je regarde un peu donc ce qu'on pourrait faire, et je finis mon rapport, et au moment où mon rapport est fini, c'est mai 1981.
Donc l'élection de François Mitterrand, évidemment, on va en reparler. Mais qu'est-ce que ça veut dire, pour éclairer un petit peu nos auditeurs, et moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai abordé l'architecture par l'environnement. D'ailleurs, est-ce que c'est aborder l'architecture par l'environnement, ou est-ce que c'est beaucoup plus large que ça? Qu'est-ce que ça veut dire enseigner l'environnement, Patrick Bouchain?
À l'époque, il y avait donc déjà la naissance du mouvement écologiste, et j'étais très sceptique justement sur le comportement des écologistes, qui étaient plutôt, on pourrait dire archaïques, qui étaient sur une position archaïque. Et moi, je le considérais, si vous voulez, que justement l'urbanisme, qui est un métier un peu technique et quantitatif ou fonctionnel, n'avait pas produit les choses qu'il fallait, que l'architecture était plutôt vue comme des objets isolés et posés, et dont les uns à côté des autres ne servaient à rien. J'avais vu que la réglementation, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle protégeait peu, ou tout au moins elle ne permettait pas l'harmonie plastique et esthétique des choses, elle déresponsabilisait les gens, et donc à un moment donné je pensais que tout était environnement, c'est-à-dire qu'en fin de compte le paysage est dans l'environnement, donc l'architecture est dans l'environnement, l'urbanisme est dans l'environnement, que y compris, vous voyez, l'automobile est dans l'environnement, on ne peut pas la sortir, et que éventuellement c'était le début des villes nouvelles, c'était la lutte entre la barre d'un côté, la tour et le pavillonnaire, et tout ça.
Mais on est encore dans la construction des grands ensembles.
Voilà, et tout ça, je trouvais que c'était en effet une mauvaise réponse, et donc j'avais envie de travailler sur une vision globale. Il y avait déjà énormément de gens dans le monde qui travaillaient sur ça. La France était en retard, on pourrait dire. Bon, après, tout ça s'est effondré, je veux dire, mais c'était quand même, je sais pas, la pensée d'Henri Lefebvre, par exemple. Voilà, donc, et c'était donc une pensée politique, si vous voulez. Et c'était une pensée aussi d'un philosophe américain que j'ai découvert à ce moment-là, qui est donc John Dewey, qui est quand même un philosophe de la démocratie, ou un philosophe du pragmatisme, ou surtout un philosophe de l'expérimentation. Et je savais, par expérience, donc, que c'est mieux de faire et d'observer que de prendre toujours un préalable avant de faire, et peut-être justement de se trouver dans une situation où on délègue, où on fait confiance pour passer à l'acte, et pendant qu'on agit, on réfléchit, et la réflexion modifie l'acte, et l'acte modifie la réflexion. Alors du coup, je m'aperçois, bon voilà, que j'avais encore une vision trop globale, et je fais ce rapport. Ce rapport, c'est un peu comme si c'était la clôture de mon enseignement. Voilà, donc on est en mai 81, et c'est comme si j'avais fait entre 1966 et mai 81 que des expérimentations à droite, à gauche, et que là j'en faisais la synthèse. Enfin, c'est comme si je sortais de l'école, on pourrait dire. Voilà.
Et on en parlera demain, évidemment, Patrick Bouchain. Mais juste pour terminer sur cette époque, vous l'avez évoqué, c'est le moment des villes nouvelles. On est encore dans la construction des grands ensembles. Il y a des projets emblématiques, notamment sur la question du logement social. Au milieu des années 70, on peut penser par exemple aux pyramides à Évry, gagnées par Andro et Para, enfin construites par Andro et Para. C'est un concours, c'est pour ça que je dis gagné. Quel est votre regard à ce moment-là sur tout ça? Est-ce que vous estimez que ce qui est fait... ce sont des mauvaises réponses, ou est-ce que malgré tout il y a des choses, des architectes qui vous inspirent à cette époque-là?
Alors d'abord, ce n'est pas que de l'architecture. Moi j'étais contre les villes nouvelles, parce que je ne vois pas comment on peut créer une ville nouvelle. On peut créer une ville par extension de la ville existante, ou par modification de la ville existante, ce qu'on appellerait maintenant la ville sur la ville. Mais cette création ex nihilo de ville nouvelle, qui ne tenait pas compte du territoire et de l'environnement, puisque c'était une façon, surtout autour de Paris... C'était une volonté donc, quand même, du général de Gaulle, en nommant un délégué aux villes nouvelles qui s'appelait Paul de Louvrier, c'était de casser la ceinture rouge autour de Paris. C'était en fin de compte de casser la banlieue qui était donc communiste. Et donc en créant ces villes nouvelles, c'est perturber cette ceinture. Si vous voulez. Et donc j'ai tout de suite été contre la création de ces villes nouvelles. J'ai travaillé un petit peu d'ailleurs justement à Marne-la-Vallée et j'ai été visiter d'autres villes nouvelles comme la ville nouvelle de Grenoble, puisqu'à l'époque, donc Hubert de Bedoux, qui était maire de Grenoble, était, on pourrait dire, un expérimentateur en politique urbaine. Il aurait d'ailleurs dû être ministre du logement en 81. Et il y avait donc une ville qui s'appelle donc l'Arlequin, à Échirolles, qui était une ville qui avait été faite donc par des architectes de l'AUA, qui est une agence d'urbanisme et d'architecture, et où on pourrait dire que la ville s'était construite quand même politiquement. Mais elle était quand même nouvelle. Et on voit bien qu'aujourd'hui, même cette ville rencontre les mêmes difficultés que les autres, puisque on commence à détruire, d'ailleurs, peut-être même plus vite encore à Grenoble qu'on ne construirait, détruirait à Marne-la-Vallée. Alors, quelle était l'idée? C'était, dans ces villes nouvelles, c'était de faire que la ville était, comme si elle était refermée sur elle-même, puisque le commerce, l'école, l'emploi, on disait, on peut faire le bonheur des autres seul. Et moi, je savais très bien que c'était pas comme ça. Ça ne se projette pas la vie, ou ça ne se projette pas le bonheur, ça s'expérimente. Enfin, donc j'étais déjà contre, et j'étais rentré, quand je suis sorti de l'école, un peu après être sorti de l'école, chez un architecte qui faisait des villes nouvelles. Et je me rappelle, le premier jour où je suis rentré dans cette école, on m'affecte à une opération, et j'avais donc un chef de projet, comme on dit, qui était très drôle, et je lui dis, mais comment je fais? Il s'appelait Gérard, et il me dit, comment tu fais quoi? Ben, je dis, mais comment je fais pour commencer? Il me dit, bah tiens, regarde, il jette son trousseau de clés en l'air, il retombe sur ma table de dessin, il me dit, ce sera le centre-ville. Et donc, j'avais trouvé que c'était un tel mépris que, à partir de ce jour, j'avais décidé de ne jamais construire et de ne partir que de l'existant. Si moche soit-il, si détruit soit-il, et peut-être même si pollué soit-il. C'est pour ça qu'on pourrait dire que je n'avais pas construit avant 1985. Voilà.
Et bien justement, de tout ça, on en parle demain, Patrick Bouchain, de la réhabilitation de ces espaces industriels qui a fait votre marque de fabrique. On parlera aussi évidemment de la création de l'ENSI, puisque c'est cette École Nationale Supérieure de Création Industrielle que vous allez mettre en place après l'arrivée des socialistes au pouvoir en mai 1981. Et bien à demain, Patrick Bouchain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Raphaël Bourgois avec Patrick Bouchain. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Marc Garvenès, réalisation Anne-Laure Chanel, coordination Belle Indola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.